Bonsoir à toutes et à tous. Un 1er mai presque comme les autres. Après l'annulation des traditionnels défilés syndicaux l'an dernier, plusieurs manifestations, comme avant, étaient organisées un peu partout en France, avec ou sans Covid. Nous irons dans le cortège parisien dans ce journal. La vaccination étendue depuis quelques heures maintenant en France aux 4 millions de personnes de plus de 18 ans atteintes d'obésité ou de pathologies lourdes. Les médecins se préparent donc à une augmentation du rythme des injections. Avec le déconfinement progressif, certains événements culturels soufflent un peu. C'est le cas du festival d'Avignon, qui aura bien lieu cette année, sous conditions strictes, on vous les détaillera. Nous évoquerons également la situation épidémique en Inde, où plus de 400 000 personnes ont été contaminées en 24 heures, un record absolu. La France a envoyé aujourd'hui du matériel pour aider le pays. Enfin, à la fin de ce journal, nous ferons le point sur la rencontre entre le PSG et Lens en Ligue 1, où les Parisiens se sont imposés tout à l'heure 2-1.
France Inter.
Ce sont des images qu'on a l'impression de ne plus avoir vues depuis des siècles. Des gens qui défilent au coude à coude, des drapeaux, des ballons, des pancartes, des slogans. Bref, une manifestation du 1er mai comme celle qu'on voyait avant le Covid, si l'on oublie les masques. Plusieurs syndicats tenaient à cette démonstration de force, même symbolique, puisque les règles sanitaires et le mauvais temps dans plusieurs villes n'incitaient pas vraiment à manifester. Cela donnait tout de même des milliers de manifestants un peu partout en France, 150 000 au total selon la CGT, notamment à Paris, où malgré quelques incidents pendant le cortège, les messages portés par les syndicats étaient très clairs et portés pacifiquement. Hélène Filly était dans le cortège.
Un brin de muguet dans une main, une banderole dans l'autre. Cette année, artistes, guides touristiques, conférenciers ont rejoint en masse le cortège syndical avec la réforme de l'assurance chômage en tête des revendications.
Quand elle dit que si je fais 3 jours moi dans la semaine, je gagne plus au chômage que quelqu'un qui a mis de temps en CDI, c'est comparer l'incomparable. On ne demande pas à ce qu'on nous baise les pieds. On demande simplement à être protégé pour faire notre métier. Moi, si cette réforme passe, je ne pourrai plus travailler. Ça sera impossible.
Vraiment, on redit, profondément incroyable que dans cette période,
Simon Dutheil, de Solidaire,
le gouvernement qui nous dit quoi qu'il en coûte, soit capable de mettre dans la misère et dans la peur et la hantise du quotidien des centaines de milliers de personnes.
Les occupants du théâtre de la Colline ont de leur côté décidé de défiler sous des bâches transparentes.
D'essayer d'attirer l'attention. On est sous des bâches parce qu'aujourd'hui nous sommes comme de vieux meubles laissés en attendant de pouvoir les réutiliser.
Le leader de la CGT, Philippe Martinez, a un message.
Plus de social, plus d'argent pour le monde du travail que d'en donner encore plus aux riches pour continuer à délocaliser. C'est ça le message.
Un cortège plutôt joyeux jusqu'à ce qu'il se scinde en deux.
C'est en train de péter dans tous les sens.
Jette projectile, tension avec les forces de l'ordre. La manifestation a mis longtemps à repartir. À ce stade, 34 personnes ont été interpellées.
Hélène Filly dans la manifestation parisienne. Et puis notez que dans un autre de ces cortèges à Lille, on pouvait croiser la maire Martine Aubry aux côtés de Karima Deli, candidate d'une liste d'Union de la gauche pour les régionales dans les Hauts-de-France. Ça fait plaisir quand la gauche est réunie, a lancé l'ancienne ministre du Travail de Lionel Jospin. Elle estime qu'une telle union au niveau national sera possible le jour où ces messieurs ne se regarderont pas le nombril et regarderont les gens qui ont besoin d'eux. Je suis pour l'union de la gauche, mais derrière moi ça ne marche pas. Fin de citation. Un peu plus tôt, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait lui lancé à la foule, je cite, « Je vous souhaite que le 1er mai 2022, je puisse revenir vous voir comme président de la République », évoquant notamment le rétablissement des 35 heures, une mesure emblématique de Martine Aubry, justement. Sans doute pas une coïncidence. La campagne de vaccination se poursuit en France avec cette nouveauté depuis aujourd'hui, la possibilité de se faire vacciner pour les personnes âgées de plus de 18 ans qui présentent un risque de comorbidité, obésité ou pathologie lourde par exemple. Certains ont donc sauté sur l'occasion, même un 1er mai, pour se faire injecter le précieux mélange. Un afflux auquel les personnels médicaux se préparent. Écoutez, le docteur Luc Duquesnel, médecin généraliste en Mayenne et président de la Confédération des syndicats médicaux français.
C'est très très bien de rendre éligibles toutes ces personnes qui font des formes graves lorsqu'ils sont touchés par le Covid. Par contre, on n'est pas là dans les centres de vaccination pour contrôler, pour faire des interrogatoires, pour demander les prescriptions des patients. On est là pour vacciner, on n'est pas là pour faire un travail de flic. Donc l'idéal, c'est les certificats d'éligibilité faits par le médecin traitant, car c'est lui qui connaît le mieux le patient. On sait très bien aujourd'hui qu'il y a certaines réticences pour certains vaccins, entre autres l'AstraZeneca, mais qu'on soit d'ailleurs médecin, qu'on soit infirmier, qu'on soit pharmacien, On incite tous, à partir du moment où on est dans la tranche d'âge, parce que le but, c'est d'arriver à vacciner le maximum de patients. Et donc, cet entretien, le fait d'en discuter avec son professionnel de santé, tout particulièrement son médecin traitant, et on s'aperçoit que moi, je suis dans un centre de vaccination. Mmh. Toutes les semaines, on vaccine 200 à 300 patients avec l'AstraZeneca. Et ça, c'est une vaccination faite par médecins, infirmiers et pharmaciens.
Et pour rappel, l'ouverture des vaccins à tous les Français de plus de 18 ans sans condition, ce sera pour le 15 juin prochain. En tout cas, Emmanuel Macron s'y est engagé cette semaine. Parmi les raisons de rester optimiste, il y a la réouverture programmée des lieux culturels, cinéma, salles de concert, théâtre et festivals. Celui d'Avignon le sait désormais, il aura bien lieu cet été. Grâce à la levée totale du couvre-feu au 30 juin, prévue dans le calendrier de déconfinement, dès le 5 juillet, les rues de la ville vont pouvoir s'animer un peu comme avant, ou presque, parce qu'il ne sera pas question non plus d'être irresponsable face au Covid-19, qui sera lui toujours présent. Alors à quoi s'attendre si vous décidez d'assister à ce festival d'Avignon ? Réponse avec Sarah Nedjar de France Bleu Vaucluse.
Si vous avez prévu d'assister au IN, préparez-vous à présenter un test Covid négatif, en tout cas sur les plus gros événements. Une piste satisfaisante pour Paul Rondin, directeur délégué au Festival d'Avignon.
Il s'agirait d'un passeport sanitaire avec une preuve de test négatif, donc à la Covid. C'est un principe que nous avions défendu lors d'une audition au Sénat. Si c'est la possibilité pour que les gens aillent au spectacle et que les artistes soient vus par les spectateurs, et ça concernerait les jauges hautes, c'est-à-dire en ce qui nous concerne uniquement la cour d'honneur.
Côté off, c'est un peu plus compliqué. Avec les festivaliers dispatchés dans des dizaines de théâtres, difficile d'établir un seul checkpoint. Alain Timard prépare en ce moment son théâtre des Halles.
Il va falloir prendre quelques précautions au niveau des entrées, des sorties, de la circulation, etc. Nous avions envisagé 3, 4, voire 5 scénarios en fonction de ce qui serait imposé. Et là, il semblerait que nous allions vers le meilleur.
Passeport sanitaire ou simple distanciation dans les salles, tous les scénarios sont soumis à une condition, que les chiffres du Covid-19 n'explosent pas d'ici le 5 juillet.
Et c'est évidemment ce qu'on souhaite tous, amateurs de théâtre ou non. Notez que sur notre site franceinter.fr, vous pouvez également lire un article sur ces événements tests, notamment les concerts, et comment ils nous permettent d'imaginer une reprise de la vie normale. On est nettement moins optimiste en revanche sur la situation en Inde. Le pays et ses 1,3 milliard d'habitants subissent une vague particulièrement brutale de Covid, avec un record de 400 000 nouveaux cas en 24 heures hier, un chiffre jamais atteint nulle part ailleurs jusqu'ici. Le pays a ouvert sa campagne de vaccination aujourd'hui pour 600 millions d'adultes, mais fait face à une pénurie de doses et de matériel pour soigner les malades les plus graves. Dans ce contexte, la solidarité internationale s'organise un peu en catastrophe. Bonsoir Thibault Lefebvre.
Bonsoir Olivier.
Vous étiez aujourd'hui à l'aéroport de Roissy où un avion chargé de matériel médical est parti tout à l'heure. Une première aide de la France à l'Inde.
Oui, l'avion cargo est parti tout à l'heure, peu après 16h, arrivée prévue à New Delhi demain matin. À son bord, 8 générateurs d'oxygène, des systèmes à 200 000 euros pièce qui permettent de transformer l'air ambiant en oxygène médical et qui peuvent alimenter en continu environ 2000 lits. Le fabricant, c'est l'entreprise française Novair et son directeur international Jean-Pierre Berlioz. En temps normal, il faut 7 à 8 semaines pour fabriquer ce type de machine, mais sur cette opération, il n'en a fallu qu'une.
C'est un exploit pour pouvoir fabriquer autant de machines aussi vite. La génération d'oxygène garantit l'autonomie d'approvisionnement en oxygène des hôpitaux. Et donc ça, c'est très très important parce que les gens meurent dans les rues en Inde. Il faut bien comprendre cette situation. Donc la demande en oxygène est très importante. Donc ces appareils vont servir à produire de l'oxygène et à fournir de l'oxygène aux hôpitaux.
Ça, c'est le volet aérien de l'opération humanitaire, mais il y a aussi un pont maritime, cette fois au départ du Qatar, avec 5 grands containers d'oxygène liquéfié fournis par le géant français du secteur Air Liquide. Jean-Baptiste Lemoine est le secrétaire d'État chargé du tourisme et des Français de l'étranger.
Ces containers feront le va-et-vient entre l'Inde et le Qatar afin d'être régulièrement réapprovisionnés. C'est aujourd'hui 200 tonnes d'oxygène médical qui sont ainsi conditionnées et acheminées. Et c'est donc naturellement un appui décisif.
Une quarantaine d'autres États envoient de l'aide humanitaire en Inde. En tout, ce sont 550 installations de production d'oxygène et près de 10 000 bouteilles qui doivent arriver dans les hôpitaux du pays.
Merci Thibault Lefebvre pour toutes ces précisions. C'est un rapport qui fait grand bruit en Argentine. Des experts médicaux chargés d'enquêter sur la mort de Diego Maradona à 60 ans en novembre dernier estiment que son équipe soignante a ignoré les signes de danger de mort qu'il présentait et même tout simplement qu'elle l'a littéralement simplement laissé mourir. Sa mort brutale avait profondément choqué les Argentins, entraînant justement le lancement de cette commission d'enquête médicale pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. Elle s'est réunie pendant un mois et demi avant de rendre publiques ses conclusions. Les précisions de Caroline Vic.
Diego Maradona a agonisé pendant 12 heures avant de mourir. Le rapport de 70 pages des 11 experts réunis dans la commission médicale est clair. Le médecin personnel de Maradona, Leopoldo Luque, et sa psychiatre, Agustina Kosachov, ne lui ont pas apporté les soins ni le traitement adapté. Ils ont d'abord ignoré les signaux corporels de Maradona les jours précédant sa mort, les gonflements ou les étranges ronflements. De plus, ils n'ont pas pris en compte son insuffisance cardiaque. Aucun examen cardiologique profond n'a été réalisé et il prenait même des médicaments avec des contre-indications pour des patients à risque. De même, pour son traitement psychiatrique, totalement inadapté cette fois à ses addictions. Enfin, la maison où il se trouvait pour sa convalescence ne remplissait pas ses fonctions, sans l'équipement nécessaire ni les soins appropriés. Le grand footballeur est donc mort seul, dans l'agonie et délaissé de ceux qui devaient le protéger. Le procureur général recevra lundi ce rapport d'expert et, compte tenu de la gravité des faits, pourrait même se prononcer pour un homicide volontaire. À Buenos Aires, Caroline Vic pour France Inter.
Et puis c'est une légende d'un autre genre qui était célébrée aujourd'hui par le Venezuela. José Gregorio Hernandez, surnommé le médecin des pauvres, un héros national mort en 1919. Il a été béatifié lors d'une cérémonie religieuse à Caracas, retransmise à la télévision, suivie par des millions de Vénézuéliens. Il sera désormais célébré chaque année le 26 octobre dans le pays. José Gregorio Hernandez était devenu une figure historique du Venezuela en portant secours gratuitement aux plus pauvres lors de l'épidémie de grippe espagnole du début du XXe siècle. C'était un match sous haute tension sur le terrain et en dehors. PSG Lens. La preuve de ce niveau de tension, ce sont ces graffitis insultants tagués aujourd'hui sur le quart des joueurs du RC Lens à Paris. Côté sportif, le PSG devait s'imposer pour pouvoir maintenir la pression sur le leader lillois face à des Lensois en cinquième position, pas si loin du podium. Et résultat, Alexandre Vaux, victoire des Parisiens 2-1 tout à l'heure. Ils prennent temporairement la tête de la Ligue 1.
Et oui, clairement, ils remettent la pression sur le leader lillois avant de cette 35e journée de Ligue 1. Folle saison et fin de saison en championnat de France de foot avec un pari, vous avez raison, sous tension, un Neymar sous tension, mais c'est aussi la star brésilienne qui a sauvé son équipe cet après-midi avec un but, son 7e de la saison en Ligue 1 et une passe décisive pour Marquinhos. Joie de courte durée, les Lensois ont réduit l'écart sur l'action suivante, une fin de match débridée avec un but parisien finalement annulé sur une position de hors-jeu, un possible pénalty ou du moins faute sur Neymar aussi en toute fin de rencontre. Peu importe, en fait, le Paris Saint-Germain reprend provisoirement la tête de la Ligue 1. 2 points d'avance sur Lille qui reçoit Nice à 21h, le leader avant cette 35e journée, puis à 3 journées de la fin, alors que c'est la folie en Ligue 1. Paris aussi, en quelque sorte, se rassure, en tout cas, gagne avant de se déplacer mardi soir à Manchester pour jouer sa demi-finale retour de Ligue des Champions.
Merci Alexandre Vaux. Puis vous l'avez peut-être entendu dans le journal de 18h, côté rugby, Toulouse vient d'assurer sa place en finale de Coupe d'Europe en battant l'Union Bordeaux-Bègles sur le score sans appel de 21-9. Enfin, si vous êtes amateur de télévision matinale, sachez qu'on connaît désormais le remplaçant de Laurent Bignolas aux commandes de l'émission emblématique de France de Télématin, ou plutôt les remplaçants, puisque la tranche de 6h30 à 9h30 sera menée par Julie Vignali et Thomas Soto à la rentrée prochaine. Vous pourrez donc découvrir ce Télématin nouvelle formule en septembre prochain chez nos collègues de France 2, tant que vous promettez de revenir aussi de temps en temps sur France Inter.
La météo avec Air France Protect. Réservez avec la plus grande flexibilité et voyagez en toute sérénité sur l'ensemble des vols Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Que nous réserve la météo pour la journée de demain? Réponse avec Jean-Michel Golinski de Météo France.
Persistance de température plus proche d'un mois de mars que d'un début mai pour cette journée de dimanche, avec des gelées blanches en campagne assez répandues en fin de nuit au nord de la Loire et au nord de la Seine. En journée, les maximales, sensiblement égales à celles d'aujourd'hui, vont afficher 12 à 13 degrés près de la Manche, 14 à 16 du Val-de-Loire au nord de la Seine, du centre au nord-est et en Rhône-Alpes. Il fera 17 au sud de la Garonne, 18 à 20 du Golfe du Lion à la Provence et 22 degrés sur la Haute-Corse. Ce dimanche, en matinée, les frontières de l'Est vont conserver pas mal de grisailles et un ciel souvent maussade et neigeux à partir de 1000 mètres des Vosges au nord des Alpes. Le soleil va s'imposer près de la Manche, de l'océan, ainsi que sur le pourtour méditerranéen où le vent sera turbulent, notamment entre la Corse et le continent. Sur les autres régions, après une matinée chargée, le ciel va prendre une allure très variable en se ponctuant d'averses.
Merci Jean-Michel Golinski.